Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir et à la une, le match J-4 avant le second tour des élections législatives et duel à distance, toujours, entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Deuxième prise de parole sur un tarmac en 24 heures pour le président depuis la Roumanie aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon lui répondra tout à l'heure. Le leader de la NUP sera notre invité à 18h15. Grand entretien dans RTL Soir. Les autres titres de l'actu à suivre dans votre journal. Hortense Crépin, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. C'est l'affaire qui embarrasse toujours la majorité. Nouvelles accusations de viol contre le ministre Damien Abad. La chef du gouvernement Elisabeth Borne interpellée cet après-midi. La France suffoque déjà, on a avoisiné les 40 degrés cet après-midi dans plusieurs villes du sud-ouest. Deux morts de 16 et 20 ans, deux blessés de 15 et 17 ans, un règlement de compte sanglant à Lyon la nuit dernière. Et puis le football et Bordeaux relégués en national, mairie, supporters et même les historiques du club comme Marius Trésor n'espère pas une descente aux enfers plus profonde.
À 18h40, on va défaire le monde, l'info autrement avec Cyprien Signy et compagnie. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Le menu.
Ce soir, vous allez découvrir à quoi ressemble le quotidien quand on vit sous 40 degrés 6 mois par an. Maison, travail, transport, loisirs, quand la chaleur dicte votre emploi du temps. Au menu également, la génération née en 2004, poursuivie par la malchance et un phénomène météo étrange, le heat burst.
À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et les polémistes. Et puis le temps, justement, 23 départements en alerte canicule. Bonsoir Claire Delorme.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Tendance brûlante pour demain.
Exactement, sous un soleil de plomb, en tout cas, c'est ce qu'on peut dire. Avec aujourd'hui 37 degrés atteints, mais demain, on pourrait localement dépasser les 40 degrés.
Merci Claire, on détaille tout ça à la fin du journal.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Hortense Crépin.
À 4 jours du second tour des législatives, campagne à distance pour le chef de l'État à 2300 km de Paris. Après la Roumanie, le chef de l'État est en Moldavie ce soir.
Bonsoir William Galibert.
Bonsoir.
Alors on avait quitté le président lançant hier depuis Orly un appel à une majorité solide. Et bien d'un tarmac à l'autre, même décor aujourd'hui depuis la Roumanie. Le duel à distance avec l'Union des Gauches, la NUP se poursuit.
Oui, séparés par des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres, mais ces deux-là continuent à se chercher des noises. Jean-Luc Mélenchon accuse donc le président de mépriser les Français en partant si près du vote à l'étranger à la rencontre de nos soldats. Riposte immédiate.
Il faudra m'expliquer en quoi venir auprès de nos soldats est une forme de mépris. C'est un respect affiché et je pense que tous nos compatriotes le ressentent ainsi.
Puis on s'est dit que les choses allaient enfin pouvoir se calmer.
Je ne m'exprimerai pas sur la politique française. Certes, nous sommes sur un tarmac, mais il est en Roumanie. Je ne le ferai pas depuis l'étranger.
Il ne le fera pas. Sauf qu'il le fera quand même, c'est plus fort que lui. Emmanuel Macron en remet une dernière couche.
Mais je pense que nous sommes à quelques jours de la fin d'une présidence française de l'Union européenne. Je sais que d'aucuns veulent en sortir, affaiblissant le pays et sa sécurité. Et je le combats avec force. Voilà. Donc j'assume, comme d'habitude, tout avec clarté et sérénité.
Alors depuis, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé, je cite, la grossièreté, la muflerie, l'inélégance de cette dispute entre Français depuis l'étranger. Est-ce que la joute verbale à distance va se poursuivre? Quelque chose me dit qu'on va le savoir dans quelques minutes.
Effectivement, rendez-vous à 18h15, Jean-Luc Mélenchon sera notre invité sur RTL.
Pendant ce temps, nouveau rebondissement dans l'affaire Damien Abad, dont la majorité se serait bien passée. Nouvelle accusation de tentative de viol en 2010, révélée hier soir par Mediapart. Des faits démentis par le ministre des Solidarité. Et cet après-midi, c'est dans le Calvados où elle brigue une circonscription que la première ministre Elisabeth Borne a été interpellée sur le sujet.
Je dis vraiment aux femmes, et je le dis en tant que première ministre et en tant que femme, que je les invite à déposer plainte. Parce que c'est important que la justice puisse dire les faits.
Qu'un homme utilise sa stature d'homme de pouvoir pour avoir des faveurs, ça vous dérange pas?
Bien sûr que ça me dérange.
Mais et bien pourquoi sûr. Il est encore là?
Attendez, mais bien, attendez madame. Moi, je ne suis pas juge, vous savez. Je ne suis pas juge.
Moi, je vois que cet homme est en haut de notre pays. Je suis désolée, en tant que femme, je ne me sens pas en sécurité.
Voilà pour cet échange cet après-midi entre Elisabeth Borne et une femme dans le Calvados.
RTL Soir.
18h04, déjà 23 départements en vigilance orange canicule et ce n'est qu'un début.
Le pic de chaleur, ce sera entre demain et samedi selon les régions. C'est à nouveau dans le sud-ouest qu'on suffoque le plus aujourd'hui. Philippe Demaria, vous êtes à Bordeaux pour RTL. On vous a suivi toute la journée avec des professionnels qui doivent s'accorder avec ce thermomètre. Et ces épisodes de chaleur à répétition les inquiètent surtout pour l'avenir de leurs entreprises.
Oui, cet après-midi, Bordeaux est à l'heure espagnole avec plus de 35 degrés. Derrière son étal, Denis, boulanger bio, a le courage de faire des crêpes.
Il fait encore plus chaud sur la crêpière, ça c'est sûr. Oui.
Alors la canicule a des conséquences spécifiques sur son métier.
On travaille avec du levain naturel. Dans le levain naturel, il n'aime pas trop les écarts de température, les temps orageux, tout ça. Mais on gère quand on travaille la nuit et puis on s'hydrate beaucoup. Mais sinon, voilà, il faut gérer la température et puis on n'a pas le choix. Hein.
Et cette vague de chaleur ne laisse pas indifférent ce boulanger.
Les sceptiques, je me demande à quoi ils pensent, parce que plus ça va, plus on y est, quoi.
37 degrés à Bordeaux, début juin.
Ouais, on n'a jamais vu apparemment. On essaie, nous, à notre échelle, de faire le maximum pour préserver, entre guillemets, l'environnement, la planète. On est en bio, on travaille au levain, on fait de la récupération. Enfin, voilà, on essaie de réduire nos déchets. Voilà, il faudrait que tout le monde s'y mette à son échelle. Peut-être ça va changer les choses.
Et Denis, comme tous les Bordelais, craignent les 40 degrés annoncés pour vendredi.
Philippe de Maria, correspondant de RTL à Bordeaux. Et pour vous rafraîchir, vous êtes nombreux à prendre la direction des plages. Mais prudence, surtout pour les plus âgés. Un homme de 71 ans est mort ce matin à Nice. La troisième noyade en 24 heures dans les Alpes-Maritimes.
Allez, une pause et dans un instant, ce règlement de compte sanglant. Ça se passe dans le quartier de la Duchère à Lyon. Deux morts, deux jeunes de 20 ans et 16 ans. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
Vous écoutez RTL Soir, 18h07, la suite de votre journal. Des gamins visés par une fusillade particulièrement violente à Lyon la nuit dernière.
Cela s'est passé dans le quartier de la Duchère. Deux morts de 20 et 16 ans, deux mineurs de 15 et 17 ans blessés. Et les méthodes sanglantes employées laissent clairement penser, Frédéric Perruche, à un règlement de compte avec ces victimes en âge d'être au collège et au lycée.
Ce sont des tirs à l'arme lourde que les habitants de la Bar Sakharov ont enregistrés sur leur téléphone portable vers 23h30, des rafales de Kalachnikov, puis des cris dans la nuit. Au moins 40 balles tirées, selon la police, par deux hommes cagoulés et lourdement armés qui ont tué un jeune de 20 ans et Sofiane, 16 ans, sous les yeux de son père, Salah.
Il y avait une bande, ils sont venus avec une Scénic noire, cagoulés, ils sont descendus de leur voiture. Ils ont tiré, ouais, ils ont tiré.
Et il y avait votre fils qui a été tué ?
Tué, devant moi, devant mes yeux. Ils l'ont tué. La tête, son cerveau était par terre.
Les quatre jeunes victimes étaient connues des services de police. Sofiane avait même déjà été la cible de tir le mois dernier. Pour les enquêteurs et les habitants de l'immeuble, il s'agit d'un règlement de compte lié à la drogue.
Écoutez, on ne va pas se mentir, on ne va pas se voiler la face, c'est les drogues. Parce que des fois, vous arrivez là, il dit des trucs comme ça. Les flics, ils viennent souvent faire des rondes. Le problème, c'est qu'ils ont des guetteurs. Ça siffle et les flics, ils arrivent, il n'y a plus personne.
Les tireurs ont pris la fuite dans une Scénic noire. Selon les témoins, ils sont activement recherchés.
Frédéric Perruche, correspondant de RTL à Lyon. Lors des réquisitions cet après-midi au procès de Brétigny-sur-Orge, le déraillement du train dans l'Essonne en 2013 avait tué 7 personnes et fait des centaines de blessés.
Anne Le Hénaff, le parquet d'Evry a requis tout à l'heure la peine maximale, c'est-à-dire 450 000 euros d'amende contre la SNCF.
Oui, le procureur a attaqué d'entrée. La SNCF a fait le choix délibéré de privilégier le rendement à la sécurité des passagers. Son réquisitoire, parfois très technique, a duré 3h30 pour mettre en évidence la défaillance dans la maintenance et la chaîne d'irresponsabilité. Le procureur parle de négligences évidentes, de contrôles qui n'ont peut-être même pas été faits. Il y a eu des alertes, mais les pièces qui fixent les rails entre eux n'ont pas été démontées. Ça me sidère tellement on a du mal à le croire. Puis il souligne tous ces manquements, des voies vétustes, des pièces usées qui ne sont pas renouvelées, une désorganisation totale de la maintenance, pas de décision de baisser la vitesse des trains à Brétigny malgré les recommandations. Ce sera fait quelques mois après la catastrophe. Il parle aussi d'une chaîne hiérarchique totalement anesthésiée à la SNCF. Il requiert en revanche la relaxe de RFF, Réseau Ferré de France, et du seul cadre de la SNCF jugé ici. Puis il se tourne vers les parties civiles. Cette peine, cette amende ne ramènera personne à la vie, mais elle va jeter l'opprobre et le discrédit sur la SNCF à quelques semaines des grands départs en vacances.
Anne Le Hénaff, en direct du tribunal d'Evry pour RTL.
Alors, on en parlait un petit peu plus tôt. Coup de chaud aujourd'hui à Bordeaux et puis coup de massue aussi pour les fans de foot locaux.
Ce n'est pas en Ligue 2 mais en National que les Girondins aux 6 titres de champion de France devront évoluer la saison prochaine. L'annonce a fait l'effet d'une tornade hier soir. Sanction appliquée faute d'avoir présenté des finances en règle. Et Denis Grandjou, officiel comme supporter du club, espère ne pas aller jusqu'au dépôt de bilan.
Oui, Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, se refuse à imaginer le pire depuis l'annonce de la relégation. Il est en contact permanent avec le président des Girondins, Gérard Lopez, et il est sûr que ce dernier va trouver des solutions financières.
C'est un scénario qui me paraît tout à fait possible à l'heure actuelle. Il ne faut peut-être pas trop en rajouter dans l'inquiétude.
Un sentiment que partage l'ancien joueur, Marius Trésor, président de l'association Girondins de Bordeaux.
Bon, on pensait repartir tranquillement en Ligue 2. Pour l'instant, c'est la Nationale 1. Il y a un appel qui a été fait et j'espère que les dirigeants bordelais seront entendus par ceux de la DNCG.
Dans la boutique des Girondins, rue Sainte-Catherine, la grande rue commerçante de Bordeaux, c'est le calme plat, même si j'ai rencontré Étienne, 12 ans, supporter du club.
J'aurais préféré qu'il reste en Ligue 1, mais ça arrive.
Et si jamais ils descendent encore ?
Ah bah alors là, quand même, je serais triste, hein. C'est terrible.
Les dirigeants du club ont désormais 15 jours pour rectifier le tir et trouver une vingtaine de millions, même si d'ores et déjà certains observateurs laissent entendre en coulisses que ce pari ne sera pas tenu, pressentant même un dépôt de bilan pur et simple des Girondins de Bordeaux.
Denis Grandjoie, Bordeaux pour RTL. Et puis 1 an et 8 mois de prison avec sursis requis contre Michel Platini et Sepp Blatter, le premier accusé d'avoir touché près de 2 millions d'euros de la part du second en escroquant la FIFA dont il était président. Décision attendue le 8 juillet.
Merci beaucoup Hortense Crépin. On va s'intéresser aux températures qui devraient encore grimper demain, Claire, mais ça va s'arrêter où ?
Ça va s'arrêter en tout cas pas avant dimanche, voire le début de semaine prochaine, et ce n'est qu'un préambule. Déjà cet après-midi, il a fait très chaud, je vais vous donner quand même quelques valeurs. Il a fait cet après-midi donc 37 degrés à Saint-Étienne, tout comme à Toulouse. C'est un petit peu plus tempéré près de la Méditerranée avec l'influence des vents marins, donc 26 degrés à Nice. Mais là où j'attire votre attention, c'est surtout pour les températures de cette nuit. Car en effet, que ce soit au niveau du centre-est, de la Garonne et de la Méditerranée, eh bien les minimales auront du mal à descendre en dessous de la barre des 19 degrés, ce qui fait que l'ambiance sera quand même lourde et même assez difficile. Et donc, c'est une ambiance qui va perdurer au moins jusqu'à dimanche. Donc, au lever du jour, évidemment, on avoisine déjà presque les 19 degrés, que ce soit à Cognac ou encore à La Rochelle, les 22 degrés à Toulouse au lever du jour. Hein, et ce n'est qu'un début, car l'après-midi, donc, le mercure va à nouveau flamber, comme vous le disiez très bien. 40 degrés attendus localement, que ce soit dans le sud-ouest ou encore au niveau de la vallée du Rhône. Bon, partout ailleurs, oui, ça sera aussi de très fortes chaleurs, mais ça sera quand même un tout petit peu plus respirable, surtout près de la Manche où le mercure ne devrait pas excéder les 29 degrés. Et donc, côté ciel, rien à dire, c'en est éloquent. Vraiment beaucoup de soleil, à peine voilé vers l'Atlantique, quelques entrées maritimes vers la Méditerranée. Mais sinon, voilà, RAS.
Merci beaucoup, Claire. Courte pause. Et ensuite, Jean-Luc Mélenchon sera notre invité dans RTL Soir, le chef de file de la NUPA. 4 jours du second tour des législatives, le duel à distance continue avec Emmanuel Macron. À tout de suite.
Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
18h17, bonne fin de journée avec RTL Soir. J-4 maintenant, avant le second tour des élections législatives. Qui gouvernera le pays ? Avec quelle majorité ? Duel NUP ensemble dans la moitié des circonscriptions environ. La gauche unie face à la majorité sortante. Et puis duel Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon à distance ces dernières heures. Jean-Luc Mélenchon qui est notre invité ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le chef de file de la NUP et de la France Insoumise. Je dis duel à distance parce que Emmanuel Macron a pris la parole 2 fois en 24 heures. Tarmac d'Orly hier, tarmac en Roumanie ce matin. Il a appelé les électeurs à lui donner une majorité. Vous avez parlé d'un sketch à la Trump, c'est-à-dire...
Au début, j'étais un peu surpris, cette présence sur le tarmac avec un micro. C'était Trump qui faisait ça. Alors bon, voilà, c'était un bon mot. Et puis, je l'ai écouté parler et ça commençait à m'inquiéter. Parce que le ton était quand même assez dur. Et à un moment donné, il ne doit pas manquer une voix à la République. Mais la République, c'est moi, comme dirait l'autre. Hein. Donc la République, c'est nous tous. Pourquoi ce ton ? Pourquoi cette manière de rejeter les autres ? Et ensuite, j'ai trouvé que ça se dégradait encore plus, parce que c'est depuis l'étranger qui recommence. La règle, c'est qu'on évite de se disputer depuis l'étranger. Apparemment, lui, non. Je trouve que c'est très inélégant. C'est pas une bonne manière qu'on fait aux gens qui nous accueillent, là, qui l'accueillent lui, mais qui nous accueillent nous, les Français. Et puis, tout ça dans une ambiance où je me demande ce qui se passe. Pourquoi le président monte le ton comme ça, après avoir dit que personne ne lui imposera un Premier ministre ? Si, monsieur le président, le peuple français, par ses bulletins de vote. Là-dessus, monsieur Ferrand dit une cohabitation...
C'est impossible.
Et c'est impossible. Bah si, monsieur Ferrand, président de l'Assemblée nationale que vous êtes, vous le savez mieux que personne, c'est la majorité qui crée qui donne sa confiance à un gouvernement. Et puis, on a l'impression tout d'un coup qu'il n'accepte aucun résultat, quelle que soit la situation, puisque M. Bayrou, lui, il dit, et même si vous êtes dans l'opposition, vous n'aurez pas la commission des finances, comme c'est la tradition, c'est le plus grand groupe d'opposition. Alors, à la fin, qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'acceptent que les résultats des élections qui leur sont favorables, et les situations qui leur sont favorables, c'est pas raisonnable. Je ne veux pas le croire. Alors, à quoi bon faire monter le ton comme ça?
Vous avez parlé du ton, justement, employé par la majorité dans son ensemble depuis dimanche. Ça veut dire que, par exemple, quand, à votre place, ici, lundi soir, Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'Éducation, dit « Jean-Luc Mélenchon est sorti de l'arc républicain », c'est un terme qui a été répété par d'autres députés, ministres de la majorité. Ça vous interpelle? Ça ne passe pas?
C'est-à-dire que ça paraît très étrange, c'est tellement excessif. Il y a 15 jours, on nous flattait, on nous caressait, on nous sollicitait pour bien voter au deuxième tour, et tout d'un coup, revoilà une manière d'ostraciser les gens qui est insupportable. La République nous appartient en commun, tant que nos partis sont autorisés, non ? Je trouve tout ça excessif. Venant de M. Blanquer, c'est naturellement ridicule. Pour l'instant, c'est lui qui est sorti de l'arc électoral, puisqu'il est éliminé dès le premier tour. Mais surtout, c'est l'homme qui a déclenché le plus absurde, la plus absurde chasse aux sorcières, avec l'idée de la lutte contre l'islamo-gauchisme dans les universités, le corps professoral. Tout ça ne sert à rien. C'est pas ça le sujet. Le sujet que nous avons sur les bras, c'est comment, alors que l'économie mondiale est en train de s'étouffer, nous allons nous tirer d'affaire pour que tout ne s'arrête pas et que les gens ne soient pas tués par l'augmentation des prix. Donc moi, c'est de ça dont je voudrais parler, et je mets en garde. Si vous reconduisez cette majorité, ils vous ont prévenu, encore ce midi, M. le maire l'a dit, il y a 80 milliards à sortir du budget de l'État, il en avoue 40, il ne nous a pas dit où il va les prendre. Les gens, il faut que vous rendiez compte que c'est l'équivalent...
de vouloir augmenter la TVA. Lui, il a dit non, jamais de la vie. C'est du complotisme, il a dit Bruno Le Maire aujourd'hui.
Alors, une critique, c'est du complotisme. Enfin, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Pour qui ils se prennent? On a le droit de poser des questions, ils m'en ont posé à moi. Ils m'ont dit 100 fois, comment vous financez la retraite? Comment vous financez? Et je réponds à chaque fois. Donc, ils peuvent répondre. C'est eux qui ont écrit, c'est M. Macron et son équipe qui ont dit qu'ils allaient revenir à 3% de déficit. Bien, ça veut dire retirer 80 milliards. Ce midi, M. le maire dit, oui, c'est vrai, la somme est juste, c'est 80 milliards. Nous avons toujours dit que nous en retirerons 40. Mais 40, est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? C'est les budgets de tout l'intérieur et la justice. 80 milliards, c'est le budget de l'éducation plus celui de la santé.
Donc quand la majorité vous dit l'argent magique, c'est chez Jean-Luc Mélenchon, vous vous répondez l'argent magique, c'est chez eux?
Mais bien sûr, puisque quand on leur a dit, écoutez, on comprend que vous ne pouvez pas le faire, donc vous serez obligé de trouver des recettes supplémentaires. J'espère que tout le monde suit. Et ils répondent, non, on ne fera pas de TVA, on n'augmentera pas la TVA. Mais c'est ce qu'ils ont fait la dernière fois avec la taxe carbone. Ils avaient dit non, on n'augmentera rien. Et ils avaient écrit à la Commission européenne, nous allons réduire le déficit. Et ça vous a donné la vague gilet jaune. Aujourd'hui, ils disent que, par rapport à l'inflation, que font-ils? Rien. Monsieur Macron est président de l'Union européenne. Avec l'Union, il pourrait par exemple bloquer le prix de l'essence dans toute l'Union. Ça, c'est à la portée de l'Union. Il pourrait interpeller la Banque centrale et dire surtout d'augmenter pas les taux d'intérêt parce que vous allez bloquer l'activité économique. Il ne fait rien de tout ça. Pourquoi? Et moi, je propose une technique. On me dit, si j'ai tort, je dis étouffons l'inflation là où elle est en train de prendre feu. Pas tous les prix, mais notamment le prix de l'essence. C'est une question stratégique. Voilà comment je me propose de régler les problèmes. Bloquer les prix de l'essence, bloquer les prix des choses dont on a besoin tous les jours. Et on vient me dire que c'est soviétique, mais pas du coup. C'est exactement le régime qui s'applique aujourd'hui à l'île de la Réunion, où il y a 153 produits qui sont bloqués par le soviet suprême du préfet de la Réunion. Enfin, tout ça n'est pas sérieux. Qu'on me dise que je me trompe et qu'il y a une autre méthode, mais pas qu'on me dise, eh ben écoutez, faites-nous confiance, nous verrons, c'est la croissance. Quelle croissance, monsieur le maire? Vous savez vous-même que nous sommes en décroissance pour le premier trimestre. Alors avec quoi vous comptez payer vos 40 milliards? On a le droit de vous demander ça sans que vous preniez ça pour... je sais pas, une insulte ou je sais pas quoi, c'est tout de suite les grands mots.
Alors Bruno Le Maire n'est pas là, mais on est en train de le faire réagir sur RTL. On va marquer une toute petite pause, Jean-Luc Mélenchon, et puis ce grand entretien va se poursuivre à 4 jours du second tour des élections législatives.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
l'invité d'RTL Soir.
18h27, notre grand entretien dans RTL Soir avec Jean-Luc Mélenchon se poursuit à 4 jours du second tour des élections législatives. Jean-Luc Mélenchon, je voudrais revenir juste sur ce duel à distance avec Emmanuel Macron qui donc a pris la parole depuis la Roumanie aujourd'hui et le tarmac d'une base de l'OTAN. Roumanie, Moldavie, voyage de 3 jours entre deux tours comme ça d'une élection. Vous avez parlé de mépris envers les Français. Pourquoi il est déplacé pour vous ce voyage?
D'abord parce qu'il a été décidé non pas dimanche dernier, hein, parce que les gens ont dit il s'enfuit, c'est une blague, moi-même d'ailleurs je l'ai fait, j'ai dit le bateau coule, il s'envole, mais ça veut dire qu'il y a des mois que ça a été décidé. Donc cet homme, en même temps qu'il décidait qu'il ne participerait à aucun débat à la présidentielle, décidait qu'il participerait non plus à aucun débat de la législative, puisque quand ça a été décidé, il pensait qu'il serait élu. Tout ça, c'était une formalité administrative, et donc, il s'en va.
Vous aimeriez un débat, parce que là, on parle de duel à distance. Vous aimeriez pouvoir débattre face à la Première ministre, par exemple?
Mais la Première ministre, puisque c'est elle qui a la responsabilité, dans la Constitution, c'est elle qui détermine et conduit la politique de la nation. Donc j'aimerais savoir comment elle compte s'y prendre face à la déferlante mondiale qui nous arrive dessus. Et je voudrais que tout le monde m'entende bien. L'augmentation des prix n'en est qu'à son début. Et donc, il faut étouffer l'inflation à temps. Donc, que quelqu'un veuille bien nous répondre. Alors, elle qui a la responsabilité, Monsieur le maire, a répondu, et je lui en sais gré. Mais ce midi, il a dit sur chez un de vos concurrents, hein, il a dit, bon, bah, nous allons retirer 40 milliards. Je pense que la première question à lui poser, c'était de lui dire où vous les retirez. Voilà.
Juste, sur la Première ministre, je voudrais aussi avoir votre regard sur la consigne de vote qu'elle a pu donner, puisqu'il y a une soixantaine de circonscriptions, il y aura des duels NUP-RN au second tour de cette élection législative. Elle dit « Front républicain souvent, nini parfois ». Lorsqu'il y a des candidats anti-républicains, ce sont ces mots. Et par exemple, tiens, à Hénin-Beaumont, la candidate LREM, elle vote à blanc, elle l'a dit, lors du duel Marine Le Pen écologiste. Est-ce que ça manque de clarté, selon vous ?
Je pense que chacun se fera son idée et se souviendra des sarcasmes sans fin dont nous avons eu à pâtir en notre temps. Encore une fois, ce sont des mœurs de grands seigneurs. La question n'est pas de dire pour qui il faut voter, l'intelligence des citoyens est suffisante pour ça, d'accord ? Mais il y a des choses qu'on doit dire avec clarté, c'est-à-dire pour qui on ne votera jamais, pour une raison de fond. Moi je sais que je ne voterai jamais Rassemblement National, et toute notre équipe est d'accord pour dire que la consigne, c'est on ne vote pas pour le Rassemblement National.
Ça veut dire que la consigne générale, lors des duels Ensemble RN, au second tour des législatives, c'est pas une voix pour le Rassemblement National.
Pas une voix pour le Rassemblement National. Et ensuite, faites comme vous le sentez. Je vais vous dire pourquoi c'est comme ça. C'est parce que n'importe quelle autre consigne n'est pas entendable. Si, imaginez-vous que j'aille dire, ah ben écoutez, face au Front National, il faut voter ceci ou cela, mais on dirait, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il nous appelle à voter, pourquoi ? On ne comprend pas. Donc, pas de voix, ça veut dire expliquer. Encore une fois, il faut agir dans le respect des gens, de leur intelligence et de leur vote. Mais si vous voulez tout ça, moi je le prends pour ce que c'est. La Macronie est partie dans le décor. Elle ne sait plus où elle va, elle ne sait plus ce qu'elle veut, son chef est parti, le Premier ministre qui est là ne se comporte pas comme un Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale non plus. Donc on a une impression, si vous voulez, de débandade.
Moi, ce Et que ça je veut dis dire gens... que vous, oui vous êtes toujours persuadé que vous pouvez gagner
écoutez,
dimanche.
Ça commence à bien faire. À chaque fois, c'est à moi qu'on pose la question. Demandez-leur à eux, qui n'auront pas la majorité. Absolument. Ils ne l'auront pas.
Je vous pose la question parce que.
Mais je vais vous expliquer
comme
pourquoi.
Comme il y a une alliance de gauche, la réserve de voix à gauche, elle est plutôt faible. Donc ça veut dire que pour gagner, vous comptez convaincre les 50% d'abstentionnisme qui ne sont pas venus
mais
aux urnes.
Mais qui voulez-vous convaincre
dimanche dernier ? Comment vous allez les convaincre ?
Mais attendez, commençons par dire ce qui est. Nous sommes dans. La Macronie est dans 417 deuxième tour, nous dans 406. Donc ça veut dire que dans la plupart des circonscriptions, c'est un duel entre les macronistes
276.
Et
nous.
Bon. Alors, personne ne peut dire qu'il est gagné d'avance par les macronistes. Et vous savez aussi bien que moi qu'ils ont mis sous les teignoirs, c'est pour ça qu'ils veulent parler de rien, leur contradiction. Enfin, M. Édouard Philippe a bien dit qu'il était pour la retraite à 67 ans, M. Macron à 65. Bref, il y a des contradictions entre eux, ils ne veulent pas les montrer, ils ne veulent pas les parler. On demande aux gens de voter les yeux fermés. Eh bien, c'est inacceptable.
Et puisqu'il faut aller convaincre les abstentionnistes,
la vérité, le phénomène inouï, alors je comprends que les commentateurs ne l'acceptent pas, c'est que nous sommes en situation d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Alors on trouve tous les moyens pour tourner autour de ça et ne pas le regarder en face.
Est-ce que vous pourrez obtenir cette majorité sans les jeunes? 70% des moins de 35 ans se sont abstenus au premier tour et vous les avez même un peu tensés, les jeunes, ces derniers jours.
Écoutez, oui, parce que moi, je n'ai jamais passé mon temps à caresser la tête des gens. Hein. Je dis ce qui est et ce qu'il y a à dire. Mais je vais poser la question autrement. Est-ce que M. Macron, M. Ferrand et Mme Borne comptent gagner les élections législatives uniquement avec les électeurs de plus de 70 ans, puisque c'est la seule catégorie d'âge où ils sont majoritaires? Alors moi, là, dans les plus de 70 ans, je fais partie de la minorité d'avant-garde, nous sommes 15% à voter NUP.
Mais tout le reste, pardon, de voir les jeunes
pardon, mais tout le ah non non mais attendez, tout le reste, d'accord, vote majoritairement avec nous, et la tranche 60-69 ans, il y a un point d'écart entre les deux. Donc il faudrait un petit peu arrêter de la flûte là. Sur les électeurs sont pas là, ils veulent pas de vous. Non, les électeurs ne veulent pas de Monsieur Macron, et la preuve, c'est qu'il a perdu le premier tour. Et la deuxième preuve qu'ils vont avoir, c'est que, j'espère, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Je me bats, je crois à la démocratie, convaincre les gens de venir voter. Et je dis aux jeunes, écoutez, c'est pas la peine de venir chouiner que vous aimez pas Parcoursup, si au moment où on vote, vous laissez les gens qui ont inventé Parcoursup et qui vous l'infligent, gagner les élections dimanche. Donc si vous n'aimez pas, votez pour ceux qui veulent supprimer Parcoursup. Au moins, regardez quel est votre intérêt. Si vous ne pensez pas à votre pays, pensez à vous. Hein. Alors, je prends cet exemple. Les élèves de l'enseignement professionnel qui sont en ce moment en train de passer le bac pro, eh bien, pour eux, ça veut dire, quand ils font des études, je connais l'âge moyen de ce milieu, c'est la moitié de la jeunesse de France, eh bien, il y aura pour tout le monde, une allocation de 1 000 euros. Mais le fond de l'affaire, c'est même pas son intérêt personnel. C'est l'intérêt du pays. Vous devez, si vous êtes majeur, si vous avez une carte d'électeur, votre devoir est de voter. Vous devez vous occuper de votre pays. Voilà, alors votez pour qui vous voulez, mais votez.
L'appel est lancé. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été ce soir notre invité sur RTL.
Je crois qu'on devait parler aussi des bêtises du MEDEF.
On doit parler des bêtises du MEDEF, mais comme vous le savez, Jean-Luc Mélenchon, les temps de parole sont extrêmement précis en ce moment, partie par partie. Il y a des règles de l'ARCOM.
Oui, mais on aurait dû parler de ça, parce que c'est ce qui compte, c'est les revenus des gens, comment on va vivre demain, ne pas être enfermé dans la survie.
Vous reviendrez, Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes cordialement invité.
Vous me réinvitez quel jour?
Quand vous voulez. Mercredi matin, rendez-vous est pris. Vous serez là mercredi matin? Mon chef me dit mercredi matin, le directeur de la rédaction.
Mais mercredi matin, je serai Premier ministre. Alors, je vais avoir
on sera ravis de recevoir le Premier ministre sur RTL.
Pourquoi pas?
Allez, dans un instant, ça va vous intéresser, Jean-Luc Mélenchon. RTL Soir va se poursuivre avec l'équipe dont défait le monde. On va défaire la chaleur. Quasiment 40 degrés en France, mi-juin. Pour vous donner un ordre d'idée à tous, c'est la température moyenne au Koweït l'été. Et on va justement aller rejoindre un auditeur de RTL là-bas qui va nous raconter la vie cloîtrée à l'intérieur une partie de l'année. Ça va nous aider à comprendre ce qui pourrait éventuellement nous arriver régulièrement.
Oui, et dans le code du travail, il est prévu qu'à 40 degrés, il est recommandé que les gens n'aillent pas travailler.
A tout de suite sur RTL.
RTL Soir.
Avec Julien Cellier.